Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Par les temps qui courent, rencontre et écoute tous les soirs des artistes pendant une heure. Et ce soir, Hicham Berada.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Romain de Bec de Lièvre avec Hicham Berada.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Sur un écran, des formes grandissent, poussent et se métamorphosent. Elles baignent en suspension dans un milieu aquatique. Nous sommes devant le contenu d'un petit bocal, filmé et projeté en grand, dans lequel des produits chimiques réagissent les uns avec les autres. Cela donne des éclosions, des mouvements en spirale, des poussées lentes ou rapides, et des couleurs changeantes. Certains y voient des algues, d'autres des arbres, du sable ou des roches. Ce qui se déploie sous nos yeux, ce sont des formes de paysages en mouvement. Nous sommes devant l'une de vos installations vidéo, Hicham Berada. Elle porte le titre « Présage » au pluriel et elles nous apparaissent comme autant de manières de créer des mondes par la science et par l'art mêlés. Bonsoir Hicham Berada.
Bonsoir.
Activation, c'est le titre de votre exposition. On peut la voir à la galerie Kamel Menour à Paris jusqu'au 13 avril. Bienvenue.
Merci.
Je décrivais cette forme d'installation qui s'appelle donc présage au pluriel. Est-ce que vous pourriez nous décrire de manière pratique le protocole des présages?
En fait, comment ça marche? C'est une série que j'ai commencé maintenant il y a un peu plus d'une dizaine d'années et que je continue toujours en parallèle d'autres projets. Et simplement, l'idée de base, c'était de partir d'un bocal vide que je considérais un peu comme une toile blanche, dans lequel j'activerai différentes réactions chimiques, physiques, de façon à faire naître un paysage en un temps donné, souvent une dizaine de minutes. L'idée est vraiment de remplacer un peu la connaissance qu'un peintre pourrait avoir de ses pinceaux, de ses pigments, par la connaissance du monde physique, chimique, et pouvoir trouver des réactions, des produits, des forces qui s'exercent sur elles, et dans l'idée un peu comme de créer une sorte d'écosystème, même s'il n'y a rien de vivant, quelque chose en tout cas qui fait penser au paysage, parce que je pense que souvent dans mon travail, ça parle de paysage, et c'est un mot qui m'intéresse beaucoup pour un peu réfléchir au rapport entre l'homme et la nature. Pour moi, le paysage, c'est vraiment un point de vue d'homme, à peu près 1,70 m du sol, en vue vers l'horizon, une certaine vision de la nature qui nous a beaucoup modelé, de fait que dans notre histoire, des gens l'ont peint, photographié, et donc la seule chose que j'essaye d'apporter, c'est de montrer une nature toujours en mouvement, jamais figée à un instant T, et qui a simplement subi des forces, et dans l'idée un peu d'avoir un véritable petit morceau de nature.
Et donc ce sont des solutions chimiques que vous mélangez. Et donc ça présuppose que vous ayez une connaissance de toutes ces solutions chimiques. D'où elle vous vient cette connaissance?
C'est vraiment des connaissances scientifiquement très basiques. À l'atelier, c'est beaucoup, disons, le protocole scientifique de base qui consiste à observer un objet, déjà prendre un objet, l'apporter dans l'atelier ou le laboratoire, et puis le mettre dans une boîte, souvent, un contenant fermé, soit un bocal, soit un aquarium, dont on connaît les dimensions, et donc sur lequel on va pouvoir avoir une emprise, une action, pouvoir apporter du froid et noter ce qui se passe, apporter du chaud, noter ce qui se passe, et petit à petit essayer comme d'avoir un contrôle sur la chose, mais uniquement par le biais de paramètres.
Donc c'est toujours une expérience pour vous, c'est-à-dire vous allez dans ce milieu aquatique, je disais, faire se confronter différentes substances et voir comment ça va réagir. Et c'est toujours un test.
Disons qu'à l'atelier, c'est très libre. Je cherche toujours de nouveaux paysages, mais ensuite vient la phase où, quand un paysage me plaît, j'essaye de le peaufiner, d'en saisir tous les paramètres qui pourraient avoir une action sur l'image, sur le mouvement aussi, et essayer d'être entre quelque chose qui serait entre la peinture et une partition de musique. Pas vraiment un paysage, comme je disais, à un instant T, mais plus une sorte de morphogénèse du paysage. Un paysage qui naît, grandit, se développe, change. Et pour moi, c'est un peu tout ça, le paysage. C'est pas uniquement à un moment donné.
Est-ce qu'il y a beaucoup de paysages ratés ?
Oui, énormément, il en faut. Il en faut beaucoup. Et c'est ce qui donne une sorte de préciosité à ceux qui le sont moins. Ensuite, tout reste extrêmement subjectif. C'est très lié, en fait, à ce que je vois. Un paysage fonctionne quand il ressemble à une composition de peinture ou de photographie que j'ai sûrement dû déjà voir. Et donc voilà.
Je ne sais comment donner une idée de ce mal inexprimable. Une expérience de physique pourrait seule, je crois, en offrir la ressemblance. C'est celle-ci. Quand on place sous une cloche de verre adaptée à une machine pneumatique une coupe remplie d'eau à côté d'une autre coupe contenant de l'acide sulfurique, au moment où la pompe aspirante fait le vide sous la cloche, on voit l'eau s'agiter, entrer en ébullition, s'évaporer. L'acide sulfurique absorbe cette vapeur d'eau au fur et à mesure qu'elle se dégage, et par suite de la propriété qu'ont les molécules de vapeur d'emporter en s'exhalant une grande quantité de caloriques, la portion d'eau qui reste au fond du vase ne tarde pas à se refroidir au point de produire un petit bloc de glace. Eh bien, il en est à peu près ainsi quand cette idée d'isolement et ce sentiment de l'absence viennent me saisir. Le vide se fait autour de ma poitrine palpitante, et il semble alors que mon cœur, sous l'aspiration d'une force irrésistible, s'évapore et tend à se dissoudre par expansion. Puis, la peau de tout mon corps devient douloureuse et brûlante. Je rougis de la tête aux pieds. Je suis tenté de crier, d'appeler à mon aide mes amis, les indifférents même, pour me consoler, pour me garder, me défendre, m'empêcher d'être détruit, pour retenir ma vie qui s'en va aux quatre points cardinaux. Cet état n'est pas le spleen, mais il l'amène plus tard. C'est l'ébullition, l'évaporation du cœur, des sens, du cerveau, du fluide nerveux. Le spleen, c'est la congélation de tout cela. C'est le bloc de glace. Hicham Berada, je viens de lire un extrait des mémoires de Hector Berlioz, le musicien. En quoi ce texte a été pour vous fondateur ?
En fait, oui, quand j'étais tombé sur cette lettre, j'avais déjà une pratique de performance dans laquelle la série de présages a d'abord commencé en performance ou sur des plaques de verre, dans des bocaux, j'activais différentes réactions chimiques qui étaient vidéoprojetées en direct sur un écran. Et j'ai trouvé très très fort, très très puissant dans ce texte l'idée de pouvoir trouver dans le monde physique autour de nous des sortes de métaphores très très puissantes, très très poétiques de l'être humain. Et de pouvoir transférer sur une expérience très simple sous une cloche à vide des sentiments très complexes humains, et finalement dans l'ensemble de mon travail c'est très très proche de ce que j'essaye de faire. On est toujours face à des choses qui sont presque abstraites ou enfin qui sont dans l'ordre d'une matière qui est en train de pas muter mais de changer, et dans ces changements en fait pas vraiment dans une forme vraiment, c'est plus l'idée de cette matière qui est au même temps capable de se congeler et bouillir en quelques minutes, que l'on peut trouver je pense, oui, beaucoup de poésie.
C'est la métamorphose qui vous intéresse? L'idée que les formes, en tout cas, changent, passent d'un état à l'autre, passent de l'état solide à l'état liquide?
Oui, et l'idée de la métamorphose est aussi oui, de la morphogénèse, le fait que des formes, en général, peuvent apparaître.
Le mystère de la création des formes.
Oui, vraiment, le fait qu'il n'y ait pas forcément besoin d'hommes, d'humains, pour sculpter les choses. La matière ne fait pas que se détruire, ce n'est pas uniquement une question d'entropie, il y a beaucoup de choses qui résistent à l'entropie, le vivant qui toujours reconstitue sa forme, mais aussi des cours d'eau qui comme les méandres d'un fleuve, qui tout le temps changent, mais ressemblent toujours à un méandre, ou les nuages qui sont toujours en métamorphose, mais qui ressemblent toujours à des nuages. Et c'est plus cette sorte de boîte qu'on arrive à poser en équation et qui permet en fait d'expliquer une forme à tous ces stades, d'un arbre petit jusqu'à l'arbre grand. Et en fait, oui, cette multitude de formes par lesquelles les choses passent.
C'est finalement, oui, le mystère de la création des formes et des objets dans le monde qui vous intéresse.
Oui, pourquoi des formes se font et comment. Et dans mon travail de plasticien, c'est souvent essayer de trouver la possibilité de m'insérer comme un maillon dans cette chaîne, essayer de l'infléchir, de la modifier, toujours dans un but qui est proche d'un but pictural.
Dans le texte de Berlioz, il est beaucoup question donc de cette cloche, de la cloche en verre. Quel intérêt ça a pour vous de mettre un monde ou de créer un monde sous cloche?
En fait, tout mon travail est toujours dans des boîtes, dans des cloches, dans des aquariums fermés. Un peu comme j'en parlais, en fait, il y a une grande similitude, entre le cadre en histoire de l'art et la boîte dans le laboratoire. Et une cloche est une sorte de boîte qui supporte le vide. Et justement, ces boîtes vont permettre comme de révéler d'autres petits mondes en puissance qui existent tout autour de nous. À l'intérieur de cette cloche, il y aura le vide. Le vide pourrait se faire tout autour de nous. Ça va nous permettre d'observer, à l'intérieur de ce petit monde clos, d'autres possibles qui existent virtuellement. Et c'est un peu, oui, souvent ce qui m'intéresse, à l'intérieur d'un petit contenant fermé, la possibilité d'exercer des forces dessus, le vide, le chaud, le froid, d'autres choses, de façon à comme pouvoir apercevoir ce que le monde pourrait être, pourrait devenir, des possibles.
Ce qui est détonnant dans ce texte-là aussi, c'est qu'on a d'un côté donc la dimension scientifique dans le fait de faire réagir des produits sous une cloche, et en même temps quelque chose d'extrêmement sensible, et romantique, enfin, le mot spleen est employé, et quelque chose vraiment de très très intense au niveau de la sensation. Est-ce que vous faites le lien, vous, entre un état émotionnel très très puissant et la dimension plutôt froide, scientifique?
Disons que c'est des choses qui comme apparaissent des fois comme des petits cadeaux de la nature, au gré des ratés, mais c'est plus des choses qui apparaissent quand... À l'atelier, de façon libre, j'associe différentes réactions. Des fois, se produit quelque chose. Et puis, oui, je suis comme frappé par cette sorte de poésie qui me semble, qui, je pense, peut être très, très universelle, puisque c'est une poésie de la matière. Et tous les humains partagent les mêmes lois physiques et les mêmes matières sur Terre. Les mêmes atomes, donc je pense que c'est une sorte de poésie qui peut être vraiment pas comme presque qui n'aurait pas besoin de culture pour atteindre son but de poésie.
Pas besoin de l'histoire de l'art, par exemple.
Pas du tout forcément d'histoire de l'art ou même de conceptions qui peuvent être très différentes du monde en Orient, en Occident. La poésie dans la matière, je pense, peut toucher un très grand nombre de gens.
Est-ce que vous êtes sensible aux émotions que peuvent justement provoquer vos paysages sur les gens? Les gens qui passent et qui voient vos installations.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est plus, disons, l'idée un peu comme une super toile blanche. J'aime beaucoup un texte de Max Ernst où c'est aussi un texte assez fondateur de mon travail où il parle de sa découverte de la technique de frottage. Et donc, il prend des feuilles de papier qu'il appose sur différents supports, du bois, un bord de table, des pierres, et il frotte avec une mine de plomb de façon à faire émerger quelques détails de ces matières. Et en les superposant, il obtient des sortes d'images assez hallucinatoires et dont il dit qu'elles ont la puissance de pouvoir exciter les facultés visionnaires du regardeur. Et qu'en gros, en regardant ces images, chaque personne devient comme un peintre. À l'intérieur de son cerveau s'opère le mécanisme du peintre d'essayer de reconnaître une forme, de s'accrocher à quelque chose qu'on a déjà vu sans jamais vraiment pouvoir se raccrocher à quelque chose. Et ces sortes d'images qui sont en même temps abstraites, mais extrêmement définies, détaillées, et qui sont en fait comme des supports de rêve, oui, pour moi. J'aime beaucoup que mes paysages puissent aussi peut-être, pour chacun, ressembler à des arbres, ressembler à un paysage qu'il a déjà vu. Certains propulsent ça dans des fonds sous-marins, dans l'espace. Chacun ira se plonger... Et il ira reconnaître des choses, un peu comme moi quand je choisis un paysage, par rapport à son vécu, par rapport à des images qu'il a déjà vues, des paysages qu'il a déjà côtoyés. Et c'est plus cette sorte d'action, d'enclenchement de mécanismes dans la tête qui m'intéresse. Et c'est pour ça que j'essaye toujours de produire des images sur lesquelles on n'a rien à... On ne peut se raccrocher à rien en termes de temporalité, d'échelle, où aucun objet n'est vraiment reconnaissable. Et donc on ne fait que projeter des choses. Et donc voilà.
Qu'est-ce que ça a de plus qu'une toile blanche, un bocal, d'après ça, vous, Hicham Berada?
C'est un peu comme sur les frottages de Max Ernst, il y a énormément de définitions. Il y a énormément de formes, de couleurs... rien à quoi se raccrocher, mais pour moi, il est beaucoup plus facile de projeter des choses sur ces images que sur une toile blanche ou un écran blanc, ou qui demande une projection beaucoup plus importante. On est, disons, j'espère que, enfin, avec ces mes vidéos ou sur les types de dessins de Max Ernst, que d'être comme pris, le spectateur soit pris dans une sorte de projection, plus que d'essayer de projeter consciemment, de faire l'effort de projeter consciemment des choses sur une toile blanche.
Le premier paysage, hein, en tant que tel, autonome de la peinture européenne, c'est Léonard de Vinci. Hein. C'est 1473, quelque chose comme ça, il doit avoir une vingtaine d'années, 19 ans, 20 ans. Et c'est un dessin qui est aux offices, daté, hein, je crois que c'est le 15 août 1473, de la main de Léonard. Et c'est une vue de la haute vallée de l'Arno. C'est-à-dire que, alors, soit Léonard l'a fait de mémoire, ça on ne sait pas, soit il s'est promené et il a pris un point de vue extrêmement intéressant parce que on est en pleine nature. Il y a une rivière, une cascade à droite, donc c'est la lutte de l'eau et du rocher qui va devenir un grand thème de Léonard, qui est un thème chinois. Par ailleurs, c'est très intéressant. Puis sur la gauche, vous avez un promontoire, une ville médiévale inventée avec un château fort. Puis au loin, vous avez la nature civilisée. C'est-à-dire, vous avez la prairie, la campagne. Et puis, ce qui est très intéressant, ce qui montre qu'à 20 ans, Léonard était vraiment un génie déjà, eh bien, c'est que c'est là qu'il fait très rapidement des petites grilles de perspective. La perspective, elle est là, au loin. C'est la première fois qu'on est dans la nature et que de la nature, on regarde la ville. La deuxième fois, ce sera Giorgione, la tempête. La tempête de Giorgione, c'est le deuxième tableau où on est dans la nature et depuis la nature, on regarde la ville. Et c'est là, effectivement, je crois que, en tout cas, le premier paysage, c'est certainement Léonard de Vinci. Et c'est pas pour rien, hein, puisqu'il renoncera entièrement à la perspective géométrique, Léonard de Vinci, à partir de 1499.
Hicham Berada, on entend la voix de l'historien d'art Daniel Arras en 2000, une archive de 2000, qui parle de Léonard de Vinci et de cette date, 1473, où Vinci aurait créé le premier paysage. Et on entend dans cette archive l'idée que le paysage a été une invention de l'histoire de l'art. Est-ce que vous diriez que vous créez du paysage de la même manière qu'on crée du paysage depuis la Renaissance ?
Bien sûr, oui, j'essaye en tout cas de m'inscrire comme dans une suite de l'histoire de l'art. De toute façon, il y a eu des choses avant moi. Et un peu comme en science, ça ne viendrait pas à l'idée de personne de faire table rase de certaines choses. On prend ce que les autres ont fait avant nous et on essaye d'apporter une petite brique de plus. Et bien sûr, j'utilise même le fait, justement, le seul fait de regarder ces paysages quand j'arrive à avoir une action sur certains paramètres, sur certaines réactions, j'essaye de les orienter vers cette culture du paysage, avec des sortes de règles de composition, de choses qu'on apprend aux beaux-arts, je pense vraiment que le fait que des hommes aient peint, comme Léonard Vinci a été le premier, ça a vraiment très profondément, sans qu'on s'en rende vraiment compte, modifié notre rapport à la nature. Déjà le seul fait de peindre un paysage, pour moi, c'est en être extérieur. Pour être capable de le peindre, c'est l'idée que l'homme n'est pas forcément vraiment dans la nature, il en est un peu extérieur pour pouvoir la peindre. Et puis c'est, je saurais pas comment dire le.
Une certaine manière pour l'homme de s'extraire de la nature en la mettant dans un cadre en tout cas.
Oui, il faut être capable dans sa tête. Oui, je pense de se sentir hors de la nature pour pouvoir la peindre. Et puis tout plein de choses après, le fait que les peintres ou puis certains photographes, comme Ansel Adams, qui attendaient des heures, des jours, des fois, pour avoir la bonne lumière, pour prendre en photo le paysage au moment où lui trouvait que c'était intéressant. C'est l'idée que le paysage doit ressembler à quelque chose, et en tout cas, on aime les paysages qui ressemblent à quelque chose. Quand on dit un point de vue, c'est un paysage qui ressemble aux peintures. Qui ont été faites dans l'histoire de l'art. Donc oui, tout ce que je fais est complètement fonction de ce qui a été fait dans l'histoire du paysage.
Est-ce que vous voyez quelque chose de, je vais employer un gros mot, tragique, dans l'idée qu'il y a une séparation entre l'homme et la nature, ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Enfin, moi, il n'y a vraiment rien de... Dans mon travail, il n'y a rien de positif ou négatif. J'essaye juste de pas poser des questions, mais de c'est un peu comme j'aime beaucoup aussi un texte de la médecine expérimentale où il dit que faire une expérience, c'est provoquer des perturbations fonctionnelles. Et en gros, souvent dans mon travail, c'est je perturbe des processus de façon à comme pouvoir mieux les comprendre. C'est une sorte de relation, c'est l'idée d'avoir une relation avec, pour moi, essayer de modifier le paysage ou d'en contrôler des petits morceaux, c'est l'idée de interagir avec, l'idée comme presque d'un dialogue.
L'exposition à la galerie Kamel Menour s'appelle Activation.
Oui.
Est-ce que vous vous percevez comme ça, comme un activateur de paysage?
Oui, vraiment, comme je disais tout à l'heure, je considère mon rôle d'artiste uniquement vraiment comme un régisseur d'énergie. Et c'est très important pour moi de ne jamais rien sculpter ou dessiner ou peindre de mes mains. Et que finalement, mes mains ne font que activer des forces, choisir des paramètres. Et puis, dans ces boîtes, dans ces aquariums ou ces contenants fermés, c'est seulement la nature qui joue. Qui est donné à voir, des natures qui existent en puissance aussi, qui sont pas pour moi, qui ne sont pas des créations, qui existent en puissance et que je viens simplement activer. Et j'aime beaucoup quand dans mon travail il y a cette idée de, en atelier, toute une série de recherches, de tests, de vraiment de protocoles scientifiques de base où je note tout plein de paramètres, je filme, j'accumule de la matière, des datas. Et puis j'aime quand il y a activation et qu'à un moment donné, dans un lieu d'exposition, où à un moment l'œuvre est comme activée, et puis à ce moment-là, je n'ai plus du tout aucune action, aucune emprise sur les choses, les paramètres ont été choisis en avance, et à ce moment-là, j'aime comme me retirer au rang de spectateur et ne plus, et donc simplement regarder l'œuvre se faire.
Si on différencie, oui, l'activation de la représentation, par exemple Léonard de Vinci, lui, il serait de l'ordre de la représentation, c'est-à-dire il sélectionne son paysage et il le dessine. Vous l'activez, donc quelque part, il vous surprend. Ce serait cette idée-là d'avoir une moindre emprise sur la représentation.
Oui, ne pas passer par le prisme très personnel de mon cerveau, et justement donner à voir, des choses presque qui ne sont pas de moi, où je suis simplement une sorte de metteur en scène qui
comme
révèle
au théâtre.
Comme au théâtre, vraiment, sauf que les acteurs seraient de la matière, tout ce qui pourrait être dans la table périodique des éléments, et puis sur cette matière agiraient des forces comme le chaud, le froid, et les mettraient en mouvement.
Est-ce que vous vous méfiez du prisme très personnel de votre cerveau ?
Pas, disons que je ne suis pas forcément dans la méfiance, mais c'est, je trouve ça peut-être pas très intéressant, ou plus intéressant d'arriver à quelque chose de plus universel. Mais c'est vraiment très lié à mon travail. Il y a certains travaux très personnels qui peuvent être très universels. Mais dans le champ de mon travail, j'essaye, oui, de... Il y a forcément, de toute façon, cette idée de choix, de simplement ce que je vais mettre dans cette boîte. Il y a toujours le facteur choix. Mais j'aime, oui, vraiment. Après, c'est aussi ce que j'aime personnellement, que ce qui est donné à voir et semble être mis en mouvement par une force interne, comme si l'œuvre était vivante pendant quelque temps, même s'il n'y a absolument rien de vivant souvent. Mais que l'œuvre acquiert une sorte d'autonomie pendant un court laps de temps, ou que la forme naisse de cette sorte d'autonomie. Oui, c'est ce qui me plaît.
Ce qu'il y a d'étrange, c'est que devant un paysage de Léonard de Vinci, par exemple, et devant un de vos présages, donc là où le paysage est en mouvement, on peut avoir, en tant que spectateur, du point de vue du spectateur, le même type de réaction en disant « on dirait la nature ».
Oui, oui, complètement.
C'est ça que vous recherchez aussi ?
Oui, 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 complètement, que finalement, sur une toile, un paysage représenté n'est toujours que, d'un point de vue très physique, de la matière peinture agglomérée en touches qui, dans le cerveau du regardeur, ressemble à un paysage. En soi, c'est de la peinture sur une toile. Et le fait que ça ressemble, ce mécanisme-là, dans le cerveau, il m'intéresse beaucoup. France Culture, par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre avec Hicham Berada.
Human beings are given at birth because of our nature. We have
les hommes reçoivent à la naissance, à cause de leur nature, une relation spécifique au temps dans le monde.
We have the time of a human life.
Il y a la temporalité propre à la vie humaine.
Within that life,
à l'intérieur de cette vie, il y a des moments temporels plus petits.
The beating of the heart.
le battement du cœur, le cycle de la respiration,
the firing of electricity in the brain,
le flux électrique dans le cerveau,
the growth of the body and then the
la croissance du corps et sa déchéance.
So we have all these different
ces différents cycles temporels existent en nous.
So when we hear thunder or when we hear river,
donc, quand nous entendons la foudre, l'écoulement d'une rivière ou même le trafic automobile, cela nous parvient à travers une idée préconçue de ce que sont la durée et le temps. Et si la vie humaine était plus brève, bien plus brève ou bien plus longue, notre expérience des choses serait différente. Si le laps d'une vie était de 2000 ans, nous verrions les montagnes bouger. Si ce laps était d'un jour seulement, nous verrions les infimes variations de la lumière ou le soleil traverser d'un point à l'autre l'horizon. Nous vivons dans le temps de la même façon que le poisson vit dans l'eau.
Berada, on vient d'entendre une archive, la voix de Bill Viola, en 2005, qui parle de son travail et surtout du temps. Comment vous recevez son propos où il dit que nous vivons dans le temps comme dans l'eau?
Je trouve ça très 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 beau, je ne connaissais pas du tout cet enregistrement ou ces écrits. Pour moi, oui, le temps c'est quelque chose qui est très intéressant parce que souvent en laboratoire, on n'a aucune emprise sur le temps. On peut changer à l'intérieur de cette boîte plein de paramètres, le chaud, le froid, la pression et encore plein de choses, mais on n'a jamais vraiment d'action sur le temps. On subit le temps et c'est un paramètre qu'on prend comme existant de base sur lequel on ne peut pas avoir d'action. Et donc souvent dans mon travail, je modifie jamais le temps, mais par des biais détournés à l'intérieur d'un certain référentiel qui peut être par exemple un bocal, on peut modifier la perception du temps, du regardeur.
C'est-à-dire accélérer ou ralentir?
Oui, par exemple, rendre le liquide beaucoup plus visqueux, beaucoup plus dense, et donc dans lequel les écoulements se feront de façon beaucoup plus lente. Si on n'a plus rien à quoi se raccrocher, on subit une image beaucoup plus lente, beaucoup plus ralentie. Essayer de trouver aussi il y a certaines pièces qui sont montrées dans l'exposition Activation, qui sont des sortes de concrétions en bronze, qui sont ni des sculptures, parce qu'elles n'ont pas été sculptées par moi, mais qui ne sont pas non plus des objets naturels, parce qu'ils sont faits en atelier, de façon artificielle, dans des boîtes encore. Et là, donc, ces bronzes ont été comme soumis à une électrolyse qui fait qu'ils ont vieilli en accéléré. Ils ont été piqués, ils ont subi tout plein de différents phénomènes de corrosion.
Qui ont accéléré le vieillissement de la matière.
Qui ont accéléré le vieillissement de la matière et que je prends comme une sorte de... comme un marteau et un burin, c'est une méthode de sculpter mes formes de bronze. Et donc j'essaye de les faire passer de différents environnements dans le but de sculpter des formes, mais uniquement encore en modifiant en les plongeant dans des sortes de mondes dans lesquels certaines règles s'appliquent. Et donc lorsqu'ils sont dans ces aquariums branchés électriquement, pour un regardeur, lorsqu'il passe 5 minutes devant l'aquarium, c'est comme s'il avait passé une centaine d'années devant un bronze. Donc ça, le vrai temps humain n'a pas changé, mais le rapport entre l'œuvre et le regardeur s'est fait avec un temps qui n'est pas équitable, entre guillemets. J'aime que le temps de regard, finalement, comme puisse consommer l'œuvre.
L'autre travail sur le temps qui est important dans votre travail, c'est justement l'usage de la vidéo et le fait de filmer les réactions chimiques qui ont lieu dans ces bocaux. Est-ce que pour vous la vidéo c'est quelque chose qui sert uniquement à capter ou est-ce que vous jouez aussi avec le médium vidéo?
Très peu, je joue très peu avec le médium vidéo. J'utilise. Après, je suis très. J'aime beaucoup, un peu comme un peintre pourrait aimer des pinceaux, des liants et certains pigments qui viennent de certains vendeurs. J'aime beaucoup toutes les optiques, les capteurs, un peu toute cette technologie qui permet de savoir qu'est-ce qu'on fait comme prise de vue. Mais ensuite, le fichier n'est jamais modifié, ni en colorimétrie, ni en temps. Ce en quoi, pour moi, il peut rester une sorte de document dans le sens très noble du document, qui pour moi veut dire que c'est un vrai morceau, ça parle du vrai réel, ça
atteste de ce qui a lieu dans
ça
le
cas. Ça atteste d'une certaine façon, et donc ça a une sorte de pouvoir de véracité, qui justement un peu contrebalancé par le fait que on sait pas ce qu'on voit, on comprend pas vraiment si ça ressemble à rien. Et j'aime un peu ce décalage, cette ambivalence entre le fait que ça soit le strict réel enregistré en haute définition qui est donné à voir et que pourtant puisse opérer des sortes de mécanismes hallucinatoires dans le cerveau, toujours avec comme base le réel.
Une des particularités de l'exposition à la galerie Kamel Menour, c'est que donc les vidéos de présage vont être projetées à presque 360 degrés, c'est-à-dire va complètement entourer le spectateur. Qu'est-ce que ça ajoute de nouveau à vos paysages?
En fait, ça fait que depuis à peu près une année que j'ai pu filmer de cette façon, et ça m'apporte en fait vraiment un champ complètement différent au niveau de la composition et de la temporalité. Jusque-là, j'avais toujours composé dans un format 16/9, plat, vraiment un peu comme un tableau. Et cette idée que puissent s'opérer des choses derrière nous, à notre droite, à notre gauche, me donne une liberté, ou enfin, c'est tout un autre champ encore de recherche qui s'ouvre. Dans la plupart de mes pièces, quand c'est des installations, c'est souvent des pièces qui enferment. Pour la dernière exposition à la galerie Kamel Menour, on avait montré Mesquelil, qui est en fait 7 terrariums qui constituent un carré, donc dans lequel on rentre et dont quand on est à l'intérieur, on ne voit plus le dehors, un peu à la manière un peu d'un jardin islamique, où c'est pas vraiment cette idée de perspective qui compte, mais de petits mondes clos, avec 4 jardins souvent autour d'une fontaine, et chaque jardin n'est pas dans une logique paysagère, chaque jardin ne contient qu'une seule espèce de plante. Et j'aime cette idée, oui, d'œuvres qui, pendant un certain moment, nous enferment et nous imposent une temporalité différente, des sortes de règles différentes, être comme plongé dans ce monde virtuel en puissance, qui existe en puissance, quelques instants. Et c'est aussi beaucoup l'idée de comme retourner le bocal, ou finalement...
C'est mettre le spectateur dans le bocal aussi,
voilà,
d'une certaine manière.
C'est très fort, l'idée de mettre le spectateur dans le bocal et d'être dedans, plus que d'être dehors. Un peu comme on parlait de rapport au paysage, où est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on est dehors, quand on le peint en plat, quand on est entouré par lui, on se rend plus compte qu'on est dedans.
Je vous propose qu'on écoute une archive de Gaston Bachelard, et il va falloir tendre l'oreille parce que le son est assez vieux.
On peut dire que le tableau du laboratoire d'alchimie, que le portrait du vieil homme sage, que l'alchimiste, sont des images qui demeurent dans l'imagination de tout homme cultivé. Ainsi, au moins par l'image traditionnelle, on peut parler d'une permanence de la rêverie alchimique. Mais, bien entendu, le pittoresque d'un tableau ne suffit pas pour expliquer la permanence profonde de cet attrait pour l'alchimie. Il faut qu'il y ait au fond même de la nature humaine des rêveries qui recommencent les rêveries alchimiques. En somme, le contact que nous avons avec la matière est plus naturel et plus profond que nous ne le pensons généralement. Dès que nous voyons une matière se transformer, une cire se dissoudre, une plaque d'étain se liquéfie par la chaleur, nous nous mettons à rêver. Et si on nous laisse à la solitude de nos rêveries devant une matière en fusion, nous retrouvons des songes d'alchimie.
C'est la voix de Gaston Bachelard, un enregistrement de 1954 où il parle de l'alchimie et de la permanence de l'alchimie un peu partout finalement, au lieu d'être un savoir occulte, caché. C'est quelque chose qu'on, dès qu'un morceau de cire fond, dès qu'une plaque de glace fond, ça peut relever de l'alchimie, ou en tout cas de la métamorphose. Comment vous recevez cette parole, Hicham Berada?
Moi je trouve ça très intéressant, parce que c'est souvent dans... Finalement, dans mon travail, j'essaye souvent de montrer de façon un peu très visible les changements que la matière peut subir. Mais petit à petit, finalement, enfin, au fil de mon travail, je me rends compte que c'est... En fait, j'aime dans mon travail qu'il y ait toujours quelque chose à l'œuvre, qu'il y ait quelque chose qui travaille, qui ne soit pas humain, mais que ces formes, par exemple en bronze, ont été créées par des forces qui ont travaillé dessus, qu'on comprend pas forcément entièrement, mais qui transforment les choses et qui sont là, qui sont à l'œuvre. Et c'est finalement, sur une peinture à l'huile, si on se place encore, tout à l'heure on a entendu, sur des temporalités différentes de celles de l'homme, sur des temporalités qui sont de l'ordre de 1000 ans, en fait, à chaque seconde, à chaque microseconde, il y a toujours quelque chose à l'œuvre sur cette peinture. Les couleurs souvent s'assombrissent. Chimiquement, à la surface du tableau, il y a toujours de l'activité. Rien n'est jamais figé, finalement. Et une sculpture en bronze aussi subit à sa surface... tout plein de sortes de réactions chimiques, la matière se transforme, passe d'un état d'oxydation à un autre, et puis finalement de se rendre compte qu'autour de nous, tout est à l'œuvre et qu'il y a toujours beaucoup de choses à l'œuvre. Oui, c'est quelque chose que je trouve très, très beau, qu'il y a beaucoup de poésie, oui, peut s'en dégager.
Que tout change tout le temps, et que du coup, vous, votre travail, ce serait de vous insérer, ou en tout cas de montrer, de révéler
de ce révéler changement permanent. Avec une action, souvent, essayer d'avoir, pas simplement montrer, comme dans un documentaire, on pourrait le faire, de façon le plus extérieure possible, mais là, au contraire, vraiment pas mettre la main dedans, mais essayer d'avoir une emprise dessus, changer ce... accompagner, disons, puisque les choses sont amenées à toujours bouger, essayer de comprendre comment elles bougent pour les faire bouger telles que je l'aimerais.
Est-ce que votre travail d'artiste vous apprend des choses très concrètement?
Ah oui, très, très, très.
Au sens scientifique?
De façon scientifique, pas vraiment, parce que souvent je pars de cette sorte de banque de connaissances qui existe, qui est la science pour moi, et qui est en fait une sorte de banque de connaissances très très libre, accessible par tout le monde, enfin sans trop de
savoir-faire scientifique
et sans trop de différence de nationalité. Disons que cette communauté mondiale me plaît bien. Par exemple, ces derniers mois, j'avais beaucoup essayé de faire qu'une certaine réaction puisse exister à une autre taille, physiquement. J'arrivais à faire des petites choses de 15 cm. Je me suis dit, je vais pouvoir les faire en quelque chose comme 70 cm, ça sera super. Donc je suis lancé dans tout ça. Et puis finalement,
comment arriver à grandir?
À force de rater, ça m'a permis de simplement comprendre quelque chose de tout bête, mais que je n'avais pas vraiment... en tête, que les choses ont une taille. Les arbres ont une certaine taille sur Terre. Il y a des ranges, ensuite il y a des sortes de... ça peut être entre telle taille et telle taille, mais un arbre ne mesurera pas un kilomètre de long. La goutte d'eau a une taille. Et puis, beaucoup de choses ont leur taille. Et il faut... J'ai appris
à respecter ça par les
échecs en atelier.
Il y a une limite. La nature a posé un certain nombre de limites.
Oui, mais qu'il ne faut pas forcément prendre comme limite, mais comme... parce que tout est lié, les arbres ont cette taille, tout est interconnecté. Et donc, essayer en fait surtout de ne pas trop ramer à contre-courant, et plus essayer d'aller dans le courant et simplement essayer de se déplacer dans ce courant, mais sans vouloir aller à contre-courant.
Est-ce que dans votre pratique, l'idée que le savoir scientifique et l'art s'entremêlent est évidemment important, mais est-ce que d'après vous, il faudrait accéder à une forme de connaissance où ce partage de disciplines-là soit un peu caduque?
Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très vieux, le rapport entre l'art et la science. Déjà, à la Renaissance, les artistes étaient souvent en même temps ingénieurs, Léonard de Vinci. C'est pas du tout quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a peut-être, dans notre histoire de l'art très très moderne, a été, dans certains courants, un peu mis de côté. Mais on retrouve jusqu'à très longtemps des relations très très imbriquées entre artistes scientifiques, comme j'aime beaucoup les noirs d'Odilon Redon, ces sortes de fusains anthropomorphiques où ils dessinent des sortes d'animaux qui n'existent pas, et en fait tous ces animaux ont été pensés en discussion avec un ami médecin, et donc l'idée c'était vraiment de créer des animaux anthropomorphiques qui pourraient exister, qui sont pas uniquement des choix d'hommes, mais qui sont aussi modifiés pour être naturellement viable. Oui, j'aime beaucoup cette idée.
Dans l'archive qu'on a entendu de Bachelard, il est aussi beaucoup question de rêve et de rêverie. Quelle place il occupe le rêve dans votre travail? Parce que en voyant vos paysages aussi en mouvement, on peut penser à des formes de rêve.
Oui, complètement. Ben, l'idée, c'est beaucoup... j'aime beaucoup l'expression de Bachelard, où il parle de monde onirique. Et c'est très très proche de ce que j'essaye de faire. Je crois que c'est dans les rêveries de la terre et du repos, où il parle de monde onirique comme le monde du grenier, où lorsqu'on voit un trou dans un tronc d'arbre assez grand pour pouvoir s'y mettre, en fait des sortes de monde onirique, mais qui existent en fait dans la tête de tout le monde et qui sont finalement, qui se retrouvent à être comme des mondes communs. Et lui va plus loin, et que finalement, donc, si tout le monde partage ces mondes, ils existent d'une certaine façon. Et finalement, oui, ce que je donne à voir, c'est souvent, oui, ça peut être vu comme des mondes oniriques, mais très universels, parce que ce n'est pas mes rêves oniriques, mais c'est, disons, des sortes de rêves oniriques de la matière même, où chacun pourra projeter des choses, mais où on se retrouve...
Le fait que tout le monde ait ce monde onirique dans la tête... Il a autant de réalité que le monde physique.
Oui, complètement. Pour Bachelard, dans sa réflexion, ça tombait sur ça. Donc, oui, je trouve ça assez beau que ces sortes de mondes que je donne à voir existent en puissance, et puis que finalement résonnent en chacun différemment, mais tout en étant un peu comme le monde du grenier. Un certain monde onirique, oui.
Qu'est-ce que vous entendez par monde du grenier, pardon?
C'est d'un Bachelard où il parle de le monde du grenier, c'est l'idée que on partage beaucoup, que beaucoup de personnes ont ce sort de rapport, surtout enfants, au grenier comme un espace inconnu dans lequel pourraient apparaître des choses, qui peut être inquiétant, qui peut être... aussi un endroit où on est clos, où on est seul et où on se raconte des histoires. C'est un peu aussi beaucoup comme le rapport, j'aime beaucoup l'idée que le terme de jardin est né au Moyen-Âge pour en fait bien qualifier l'espace qui est entre le château et la vraie nature, où le jardin était une sorte de nature organisée par l'homme, où en tout cas on savait où on mettait les pieds, on n'allait pas tomber sur un gnome, des choses qu'on connaît pas, des choses maléfiques. Et puis, la vraie nature était comme une sorte de monde onirique où chacun projetait des choses. Mais finalement, ce monde était une sorte de monde inconnu, avec beaucoup, beaucoup de rapprochements entre cette description du monde, finalement, de la forêt. On aurait demandé à plein de personnes, on serait tombé sur quelque chose de très similaire. Et pour moi, oui, c'est un peu ça, un monde onirique, un monde qui n'existe pas forcément, mais qu'on partage tous par une sorte de culture, ou même, ça me semble plus profond que la culture, plus intérieure. Et ces sortes de mondes, oui, qui sortent des sortes de mondes de dehors, mais qui résonnent très fort, comme si c'était des petits mondes qui existaient en chacun de nous.
La couleur, je vais vous dire. Je vais vous raconter une histoire qui va m'aider à parler de la couleur. Je vais faire le cuistre. Vous voyez, Einstein racontait l'histoire de la relativité, l'histoire entre l'espace et le temps. Il commence par raconter l'histoire des trains en gare. Alors, nous sommes dans un train, nous sommes sur le point de démarrer, le train est sur le point de partir, et puis, on démarre, mais on ne sait pas si c'est notre train ou le train d'à côté qui démarre. Tout le monde a vécu ça. Alors, on a un instant de trouble, et Einstein dit, il n'y a qu'une seule solution, il faut regarder le quai. Si on regarde le quai, on sait si c'est nous qui partons ou si c'est le train d'à côté. Donc, il faut trouver un quai. Et alors, ensuite, pour parler de l'espace et du temps, de l'énergie du monde, il dit, quel est mon quai? Quel est mon quai dans l'infini de l'univers? Et il dit, c'est une chose qui existe dans l'infini, à l'un et à l'autre bout infini du monde, de l'univers, de la Terre, de tous les espaces universels, c'est la vitesse de la lumière. Il dit, mon quai, pour me rendre compte de ce qui se passe entre l'espace et le temps, c'est la vitesse de la lumière. C'est-à-dire partout, en tout temps, en tout lieu, elle va à 300 000 km à la seconde. Ben moi, mon quai, c'est la couleur. Voilà, c'est simple. Pour pouvoir me retrouver entre les formes, les espaces, entre les anecdotes, entre l'histoire en train de se faire et la formation, la composition de mon temps. Pour me retrouver dans tout ça, dans ce que j'ai à dire, dans quel univers mettre tout ça, comment m'y retrouver, comment me rééquilibrer, c'est la couleur. Ma vitesse de la lumière, c'est la vitesse de la couleur, c'est l'énergie de la couleur.
Hicham Berada, on écoute une archive, la voix du peintre Gérard Fromanger, en 2016, qui parle de la couleur et de toute la théorie de la relativité d'Einstein. Vous disiez tout à l'heure que tout était toujours changeant dans la nature. Lui, quand il explique que le point auquel se raccrochait le quai, c'est la vitesse de la lumière, ça se pose là en termes de quai changeant. Ce serait quoi votre quai à vous ?
C'est vraiment quelque chose auquel j'ai jamais vraiment pensé. Enfin, l'idée de référentiel m'intéresse beaucoup parce qu'il faut toujours un référentiel. En gros, je choisis souvent, pour moi, une boîte va être le référentiel de telle œuvre. Mais disons que oui, mon quai serait plutôt, oui, peut-être le mouvement ou une sorte de c'est un mot que, oui, que j'arrive, c'est quelque chose qui serait entre le mouvement et la morphogénèse, un peu comme ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure sans vraiment trouver le bon mot. Mais oui, l'idée que les. C'est. Oui, mon quai, oui, serait mouvant, en fait, serait ce sort de mouvement, mais toujours compris dans un cadre, un peu comme un nuage qui change, mais qui garde toujours la forme d'un nuage.
Quelle place vous accordez aux couleurs dans votre travail ? Est-ce que c'est toujours un accident, la couleur ? Quelque chose qui survient et qui vous surprend ?
C'est souvent quelque chose dont sur lequel, finalement, je n'ai pas tant d'emprise que ça, où finalement les couleurs que j'utilise ne sont jamais comme mélangées, comme un peintre pourrait créer une couleur. Mais quand on voit dans mon travail du orange, souvent c'est des oxydes de fer. Et puis après, ce que je peux choisir, c'est un état d'oxydation, un avec un électron, deux électrons, trois électrons, qui change plus ou moins le fer d'une couleur un peu, une rouille un peu jaune jusqu'à une rouille très rouge. Mais ces couleurs existent dans la nature, je les utilise, je ne les modifie pas. Mais je les trouve très belles, aussi pour ce qu'elles sont.
Vous direz que le spectre des couleurs dans votre travail est limité, ou en tout cas il est...
En fait, pas vraiment, je trouve que dans l'ensemble de... J'avais fait une pièce sur l'idée que le tableau périodique des éléments, donc en fait ce sort de tableau de Mendeleïev qu'on retrouve dans tous les collèges et dans tous les labos, contient en fait 117 éléments. Peut-être c'est de temps en temps mis à jour, ils en trouvent un ou deux de plus, mais il y a pas longtemps c'était 117. Et finalement, pour moi, il n'y a pas, dans l'ensemble de ce que fait l'homme, il n'y a pas vraiment de création, simplement réagencement, comme avec des Legos de base. C'est tout ce qu'on voit, toutes les peintures, tous les arbres, toutes les sculptures sont faites à la base de ces 117 petites briques, assemblées les unes différemment avec les autres. Mais... pour moi, il n'y a jamais vraiment de création, simplement réagencement. L'homme ne fait que trier, l'homme à la nature finalement pour moi ne fait que trier, recombiner, mais pas vraiment créer. il modifie, disons, l'emplacement des choses. Il prend un mètre cube de terre et il en extrait 2 grammes d'or, 1 gramme de cobalt. Ensuite, avec ce cobalt, il va le mélanger à quelque chose d'autre pour l'assembler et en faire autre chose. Mais ce n'est que de l'assemblage et pas de pure création, pour moi.
Ce qu'il y a d'étrange, c'est que, à la fois dans votre travail, il y a une manière d'être démiurge, au sens où vous créez un monde, ce qui pourrait apparaître comme une ambition un peu démesurée et aussi un mythe un peu romantique, et en même temps quelque chose d'un grand laisser-faire et d'une forme d'humilité.
Oui, après, c'est vraiment très ambivalent entre cette idée de démiurge et de serviteur de la nature, parce que finalement, ce que je reviens à faire, c'est m'insérer comme un petit maillon et aider les choses à se faire. Mais la finalité n'est pas moi. J'ai simplement aidé à ce que, dans ce cadre donné, ces choses-là se rencontrent. Et puis, c'est cette idée d'être démiurge, mais d'un petit bocal, en gros, de pas vraiment avoir d'action sur le réel avec un grand R, mais une sorte de petit réel dans des dimensions très très choisies, finies. Et donc oui, c'est uniquement à l'intérieur de ce bocal que j'oriente légèrement ce qui est donné à voir, mais pour moi un peu la star, c'est la matière, et c'est elle qui est donnée à voir, comme un peu on voit un acteur au cinéma.
Quelle relation justement vous avez à la notion de spectacle, ou en tout cas à l'idée que les présages, par exemple, ou même vos formes de sculpture relèvent du spectacle?
En fait, même n'importe quelle exposition, pour moi, est une sorte de performance avec une durée. J'entends par performance quelque chose d'assez proche du spectacle. Pour moi, c'est une exposition, c'est un spectacle qui durera 1 mois, 6 mois ou 1 an. Et donc, à l'intérieur de cette temporalité vont se passer différentes choses. Un programme, disons, comme aussi très proche d'une partition. Mais je ne le vois pas, je vois rarement l'idée d'une exposition comme l'idée du musée, où un objet intemporel serait montré là pour toujours. Et c'est plus l'idée d'orchestrer, d'organiser ces transformations dans le champ de l'exposition, comme si on convertissait 1 heure de spectacle en 1 an d'exposition.
Merci
à vous.
Activation, votre exposition, c'est à la galerie Kamel Menour. Elle ouvre demain à Paris jusqu'au 13 avril. Et on peut aussi lire le livre Hicham Berada aux éditions Lien Art, qui a été publié à l'occasion d'une exposition l'année dernière à l'abbaye de Maubuisson. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Ce soir au son, c'était Anthony Thomasson, Lise-Marie Barré à la réalisation. Merci à Anna Baron, Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Luc Vauvillier qui pensent et préparent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. What have you seen? Opposites.
So when can you?